Quand on abîme trop certains écosystèmes, quand on émet trop de carbone, derrière, on peut faire ce qu'on veut, on ne peut plus revenir en arrière et on ne peut plus rien maîtriser.
Le cri d'alarme des chercheurs, alors que l'on a atteint aujourd'hui le jour du dépassement, autrement dit, l'ensemble des ressources que la planète peut produire en un an est d'ores et déjà épuisé. Face à la flambée de l'épidémie, la Martinique reconfinée pour 3 semaines. Et aux Antilles, comme en métropole, il faut aller chercher les indécis qui ne sont pas encore vaccinés, c'est l'appel du gouvernement. Les JO de Tokyo et cette polémique qui monte sur les tenues vestimentaires des athlètes féminines jugées sexistes et pas pratiques. Alors à quand l'égalité dans le sport? On en parle notamment avec Marion Philippe, historienne du sport, notre invitée dans ce journal. Et puis côté compétition, 9e médaille pour la France, elle est en argent, décrochée chez les dames d'ailleurs en aviron. À suivre, l'éclairage éco d'Emmanuel Duteil qui nous parle ce matin de Nabila et Bruno Le Maire. Ensemble, oui c'est possible, votre conseil santé avec le docteur Brigitte Milot et puis le journal des JO Axel May, le point complet sur les épreuves en cours. Très bon réveil, il est 7h01, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le journal de 7h, c'est avec Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Théo, bonjour à tous. À compter d'aujourd'hui, l'humanité vit à crédit sur Terre. L'ensemble des ressources que la planète peut renouveler en un an a été épuisé. C'est ce qu'on appelle le jour du dépassement. Un jour d'autant plus symbolique au regard des catastrophes naturelles qui ont frappé le Japon, le Canada ou l'Europe ces dernières semaines. Et les chercheurs alertent désormais sur l'affaiblissement des signes vitaux de la planète. Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour.
Alors de quoi parle-t-on quand on évoque les signes vitaux de la planète?
Eh bien, comme pour un être humain où l'on vérifie sa tension, son taux de cholestérol ou son rythme cardiaque, les scientifiques ont mis au point des critères pour s'assurer de la bonne santé de la planète. Il y en a 31, notamment les émissions de gaz à effet de serre, la température de l'océan ou encore l'état de la banquise. Et cette année, plus de la moitié des catégories, 18, ont atteint des records catastrophique. Les concentrations en méthane sont plus élevées que jamais, les glaciers fondent 31% plus vite qu'il y a 15 ans, et la déforestation en Amazonie est telle que la forêt émet maintenant plus de CO2 qu'elle n'en absorbe, avec le risque, selon les scientifiques, d'atteindre des points de bascule, comme l'explique Arnaud Goffier, directeur des programmes au WWF France.
Quand on abîme trop certains écosystèmes, quand on émet trop de carbone, derrière, on peut faire ce qu'on veut, on ne peut plus revenir en arrière et on a des effets qui s'auto-alimentent. Et on ne peut plus rien maîtriser. Et ce fameux point de bascule pour l'Amazonie, il est fixé par certains scientifiques autour de 20-23% de déforestation de tout le massif amazonien. On n'est pas loin.
Autre point de non-retour qui inquiète les chercheurs, la fonte des calottes glaciaires en Antarctique pourrait devenir irréversible et les récifs de coraux pourraient ne jamais être sauvés.
On le comprend, Johanna, la situation est dramatique, mais est-ce que ces chercheurs proposent aussi des solutions pour essayer de remédier à cette situation ?
Oui, ils avancent plusieurs pistes comme éliminer les énergies fossiles, réduire les émissions de gaz à effet de serre ou encore privilégier le végétarisme. Mais selon ces chercheurs, le plus important, c'est surtout de réagir au plus vite et de ne plus s'attaquer à chaque symptôme de manière isolée. D'après eux, il faut une politique ambitieuse pour traiter la source du problème, la surexploitation de la planète par les humains.
Johanna Chabas.
Et ces pistes passent-elles aussi par une diminution des populations, une diminution de notre procréation? C'est l'une des pistes défendues par Jean-Loup Berthaud, directeur de recherche au CNRS, qui sera mon invité dans le tête-à-tête tout à l'heure à 7h40. Pour l'heure, il est 7h04 sur Europe 1. Et la Martinique est donc reconfinée pour une durée de 3 semaines, conséquence de l'épidémie de Covid qui progresse vite, avec désormais plus de 19 000 cas par jour en France en moyenne.
Et c'est 97% de plus qu'il y a une semaine. Et si la France a franchi le cap des 50% de vaccinés, on est loin de l'immunité collective. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, insiste donc, il faut convaincre les indécis.
Nous devons aller chercher chaque hésitant. Nous devons amener le vaccin au pied de chaque immeuble, dans chaque hameau, dans chaque espace de vie, afin que chacun puisse saisir cette chance de se protéger et de protéger les autres.
Et pour inciter les Français à se faire vacciner, le gouvernement compte aussi sur les pharmaciens et les médecins qui profitent d'une relation de confiance entre soignants et soignés, parce que même dans les centres de vaccination, beaucoup de gens viennent encore à reculons, comme le montre ce reportage dans le Nord, signé Maximilien Carlier.
Asha arrive sur la pointe des pieds. Elle observe les box de vaccination. Sceptique, le vaccin? Non, pas pour tout de suite.
J'attends un peu, je réfléchis encore. J'hésite, en fait. Il y a beaucoup d'effets indésirables. Il y a beaucoup de cas qui sont décédés. Voilà. Moi, j'ai peur.
La peur à cause d'images entreaperçues sur Facebook, c'est ce qu'elle m'a confié. Jacques est médecin généraliste.
Beaucoup de gens rapportent ce qui est dans les réseaux sociaux. Et la plupart du temps, quand on leur demande s'ils ont vu, ils vous rapportent toujours les vidéos ou ce qu'ils ont entendu, mais jamais ce qu'ils ont vu eux-mêmes.
Et il faut pouvoir démentir dans ce cas-là. Mais ce qui revient régulièrement, régulièrement chez les indécis, c'est cette confusion gouvernement-santé publique, selon Élodie, également docteur.
Je trouve dommage les gens qui ont une indécision ou un rejet du vaccin par un rejet de la politique. Ce n'est pas en ne vous faisant pas vacciner que vous allez punir le gouvernement, au contraire.
Protégez-vous plutôt, insiste ce médecin, et après, allez manifester si vous n'êtes pas content, mais au moins, vous serez vacciné. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et pour freiner la courbe, le gouvernement mise donc sur la vaccination, mais aussi sur le pass sanitaire. Il entrera en vigueur le 9 août prochain dans les cafés, les restaurants ou les transports. Autre mesure, à partir de septembre, au collège et au lycée, les élèves non vaccinés seront renvoyés chez eux s'il y a un cas de Covid dans la classe. Les autres pourront rester sur place et c'est loin de faire l'unanimité.
Je trouve ça injuste pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, parce que parfois c'est même pas eux qui choisissent, ou ils ne veulent pas le faire maintenant, ou ils ont des raisons personnelles qui font que, des maladies, voilà quoi.
Macron, il a dit que le vaccin ne serait pas obligatoire, et maintenant les élèves, ils pourront même plus bien travailler, bien progresser à l'école, tout ça, juste parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Mais je trouve ça ridicule.
Ça va rendre la vie des profs un peu plus compliquée, parce qu'ils vont faire des cours à des élèves qui sont chez eux et en même temps qui sont en classe, donc ça va un peu compliquer les choses, mais c'est peut-être une mesure à prendre pour certains parents qui sont encore un peu contre la vaccination de leurs enfants.
Je pense que c'est normal parce que vu que moi je suis vacciné, je pourrais pas avoir des effets aussi forts du virus, mais les gens qui sont pas vaccinés, ils peuvent toujours avoir des effets très normaux. Et je pense que ça serait beaucoup mieux si tout le monde se ferait vacciner parce qu'il y aurait moins d'embrouilles et plus moins de soucis aussi.
Des propos recueillis par OCNTR dans les rues de Paris.
Au volet judiciaire, c'est la première fois qu'un dirigeant étranger est condamné en France dans une affaire de bien mal acquis. Et c'est la Guinée équatoriale qui va en bénéficier.
Le vice-président du pays était accusé de s'être constitué un patrimoine luxueux en détournant des fonds publics. Il a été condamné à 3 ans de prison et 30 millions d'euros d'amende. Marion Dubreuil, tous les biens de Théodorin Obiang lui ont donc été définitivement confisqués.
Exactement, ces biens seront mis en vente par l'État français. Il y a notamment cet hôtel particulier, avenue Foch, 3000 mètres carrés dans l'un des quartiers les plus chics de Paris. Cinéma, hammam, robinet en or, le tout estimé à 107 millions d'euros. Sarah Brimboeuf, spécialiste des biens mal acquis pour Transparency International France, partie civile dans le dossier de Théodorin Obiang, se félicite de sa condamnation définitive. Point final d'une procédure qui a duré 14 ans.
C'est un message très ferme, très fort, envoyé par la justice française sur ces pratiques, sur le fait que la France ne sera plus bien une terre d'accueil de cet argent sale, de ces fonds publics détournés, puis investis, blanchis en France. On a cette condamnation définitive. On a également maintenant un dispositif spécifique de restitution des biens mal acquis.
Cette procédure de restitution prendra encore plusieurs années. Elle pourra se faire par deux biais, via des appels d'offres à projets ou bien via l'Agence française de développement, avec une préoccupation pour les ONG, s'assurer que cet argent, 150 millions d'euros environ, ce qui correspond au budget annuel de la santé en Guinée équatoriale, soit reversé au profit des Équato-Guinéens.
Marion Dubreuil.
Il est 7h09, les JO de Tokyo se vantaient d'être les premiers de l'histoire à respecter la parité homme-femme. Et pourtant, Émilie Dez, il n'échappe pas aux polémiques sexistes.
Et notamment sur les tenues des sportives qui sexualisent les corps, et ça, les athlètes féminines en ont marre, Laura Taouchanoff.
C'est simple, elles sont soit trop couvertes, soit pas assez. Le débat a été relancé dimanche. Des gymnastes allemandes se sont produites en combinaison rouge et blanche intégrale plutôt que dans le juste corps traditionnel, tenue volontairement plus confortable et couvrante pour refuser la sexualisation de leur corps. Une réaction aussi à un match de beach handball disputé quelques jours avant le lancement des Jeux. Les joueuses norvégiennes ont porté un short, c'est pourtant bikini échancré obligatoire, dégradant et peu pratique selon elles. Cette infraction délibérée coûtera 150 euros d'amende à chaque joueuse. Alors ce sexisme flagrant fait réagir dans le milieu du sport jusqu'à encourager la gymnaste jamaïcaine Danusia Francis à suivre l'exemple des Allemandes.
Les tenues sportives de femmes ne sont absolument pas conçues pour nous aider. Elles sont juste là pour valoriser notre féminité alors qu'elles devraient être confortables et nous rendre plus performantes. Que ce soit pour des raisons culturelles, parce qu'on a nos règles, elles doivent avoir le choix. Je ne vois pas pourquoi elles ne l'auraient pas.
Une réglementation qui choque bien au-delà des sportifs. La chanteuse Pink a par exemple proposé de payer l'amende des Norvégiennes en signe de soutien.
Laura Taouchanov.
Et avec nous pour en parler ce matin, Marion Philippe, historienne du sport. Bonjour à vous.
Bonjour.
La parité est quasiment atteinte hein, à ces Jeux, Émilie le disait, avec 48,8% des athlètes qui sont des femmes. Mais parité, ça ne veut pas forcément dire égalité. C'est ce qu'on voit dans ces témoignages, cette polémique sur les tenues des athlètes féminines, qui n'est pas quelque chose de nouveau, mais qui voilà, monte en puissance cette année. Parité, c'est quelque chose de symbolique, surtout jusqu'ici dans le sport, Marion Philippe.
Oui, tout à fait. La parité qui est revendiquée par le CIO, par le comité d'organisation pour les Jeux de Tokyo 2020 et aussi pour Paris, où ce sera finalement vraiment 50% pour la parité, c'est quelque chose dans l'air du temps, mais finalement, on voit qu'il y a d'autres choses à côté. Il y a un sexisme, il y a une non-égalité, et notamment au niveau des tenues sportives, où les hommes n'ont pas forcément de code, alors que les femmes doivent porter un juste au corps ou un bikini échancré. Voilà.
Oui, c'est quoi, ça a été choisi plus pour le téléspectateur derrière sa télé que pour la performance sportive? C'est ce qu'elles disent, hein, ces sportives, justement, ces athlètes.
Exactement, c'est ce que disent les sportives, et notamment pour, je pense aux volleyeuses qui sont largement sorties dans la presse sur ce sujet, elles aussi, qui les Norvégiennes qui ont également voulu concourir en short, mais qui n'ont pas été sanctionnées, puisque dans le règlement du beach volley, ce n'est pas précisé, enfin le bikini n'est pas obligatoire, mais elles ont clairement dit que c'était pour l'audience et pour attirer de l'audience que finalement il fallait valoriser le corps féminin le plus dénudé possible, finalement.
Et est-ce que la nomination de Brigitte Henrich à la tête du Comité national olympique et sportif français, une femme donc, est porteuse d'espoir pour plus d'égalité au JO 2024 à Paris ?
Alors oui, bien sûr. Après, le travail doit être aussi réalisé au niveau du comité d'organisation et dans le cas présent également au niveau des fédérations internationales.
Parce que c'est ça, effectivement, ce sont ces fédérations qui infligent des amendes, on le rappelle, à ces beach handballeuses notamment, qui refusent de jouer en maillot de bain, qui veulent juste porter un short. Ça paraît assez incroyable. En 2021, le monde change, il change lentement. Merci à vous, Marion Philippe, historienne du sport, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1 pour en parler.
Et les JO de Tokyo, on en reparle avec cette 9e médaille remportée cette nuit par la France, une médaille en argent décrochée en aviron par le duo Laura Tarantola et Claire Beauvais, Marie Guida.
Oui, elles étaient un peu les outsiders de cette finale. Laura Tarantola et Claire Beauvais sont finalement arrivées deuxième en deux de couple poids léger au terme d'une course très serrée où tout s'est joué à quelques centimètres jusqu'à la ligne d'arrivée. Il a même fallu la photo finish pour départager les quatre bateaux qui se tenaient en moins d'une seconde. Une course indécise qui ravit Laura Tarantola au micro de nos confrères de France Télévisions.
On a fait que attaquer tout le long et j'avais même pas capté qu'on avait rattrapé les Hollandaises. Enfin, et je voyais à droite qu'on était dans un mouchoir de poche et petit à petit on décalait sur les Anglaises. Et enfin, franchement, la course était ouf. On a tout donné et waouh! Enfin, oui, comme c'est serré de finir deuxième, c'est juste incroyable.
Une belle performance. Cela faisait 25 ans que l'aviron français féminin n'avait pas remporté une médaille olympique. Il fallait remonter en 1996 à Atlanta et la médaille de bronze de Christine Gosset et Hélène Cortin en 200 barreuses. Et puis c'est en ce moment en escrime, les Françaises affrontent les Italiennes en demi-finale par équipe en fleuret. Pour l'instant, les Françaises sont très mal engagées et en judo, Madeleine Malonga s'est qualifiée pour les demi-finales.
Marie Guida du service des sports d'Europe.
Merci beaucoup, c'était le journal d'Émilie Dez. Il est 7h14.